السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons la chance de connaître un autre mois du Ramadan au cours de notre vie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à une occasion: si seulement les gens connaissaient les excellences du Ramadan, eh bien ma Oumma aurait souhaité que toute l'année soit Ramadan. Quelqu'un lui a demandé d'en décrire les excellences en disant au prophète d'Allah: décrivez-nous les excellences du Ramadan. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: le paradis est embelli pour le Ramadan du début de l'année jusqu'à la fin. Selon un autre récit relaté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, le saint prophète Mohammed a déclaré que quiconque jeûne pendant le Ramadan comme un acte de foi et en s'évaluant personnellement, eh bien, il verra ses péchés précédents expiés. Si vous connaissiez les excellences du Ramadan, vous auriez souhaité que toute l'année soit Ramadan, a déclaré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, l'excellence du Ramadan n'est pas limitée aux jours de ce mois ou au fait d'éviter de manger ou de boire à certains moments de la journée. Allah ne prépare pas le paradis uniquement pour ces raisons au cours de l'année. Les raisons ont été clairement énoncées dans le deuxième hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. à savoir qu'il faut jeûner comme un acte de foi et en accomplissant son introspection du matin jusqu'au soir au cours du Ramadan. C'est ainsi que l'on méritera ce statut. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que les péchés antérieurs seront pardonnés et c'est là que l'on va progresser dans sa foi et c'est là que l'on arrivera à accomplir son introspection, c'est là que l'on examinera ses faiblesses et ses œuvres et c'est là que l'on méditera sur son respect des droits d'Allah et d'autrui. Et c'est là que l'on va s'efforcer de conformer ses œuvres au plaisir d'Allah. C'est en accomplissant ces actions que les péchés seront pardonnés. Voilà l'objectif fixé par Allah pour les jeûnes du Ramadan selon le Saint-Coran. À la lumière du verset que j'ai cité au tout début, à savoir que le jeûne du Ramadan vous est prescrit tous les ans afin que vous adoptiez la taqwa. Et la taqwa signifie œuvrer uniquement pour la cause d'Allah. C'est là que vous pourrez profiter des faveurs du Ramadan. Et c'est ainsi que vous pourrez vous protéger des assauts de Satan. Quand l'on va jeûner en toute sincérité, l'on profitera de la protection d'Allah. Et quand on profite de la protection divine, c'est là que l'on pourra se protéger de Satan. Sinon, Satan, quant à lui, a lancé un défi ouvert, à savoir que dès que l'homme s'éloignera de la protection d'Allah, Satan, quant à lui, va le prendre immédiatement dans ses filets. Ainsi, c'est le progrès dans la foi, c'est l'analyse de son âme qui feront profiter à l'homme la protection d'Allah. Ce sera possible lorsque l'on va marcher sur les voies de la taqwa. Quels doivent être l'état de la foi et quels doivent être l'état ainsi que le niveau de la taqwa? Et comment atteindre les niveaux requis? Celui qui a été suscité par Allah l'exalté pour accomplir cette tâche est le seul qui pourra nous informer à ce sujet. Il s'agit ici du serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'imam de l'époque. Allah l'exalté avait envoyé l'imam de l'époque pour accomplir cette mission. C'est l'imam de l'époque qui a ramené la foi de nouveau sur terre et c'est lui qui a établi de nouveau la taqwa dans les cœurs et c'est lui qui devait enseigner les moyens pour établir cette taqwa dans les cœurs. Ainsi, nous constatons que les ouvrages du Messie premier al-Islam, les propos qu'il a tenus lors de différentes réunions ainsi que ses dires nous éclaire à ce sujet sous différents angles. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un hadith qu'il faudra jeûner dans un état de foi, il faudra jeûner en accomplissant son introspection. Celui qui agira de la sorte aura ses péchés expiés. Ce n'est pas là quelque chose d'ordinaire. Le Messie premier l'Islam nous explique que l'on possédera pas la foi tant que l'on n'aura pas reconnu le statut véritable d'Allah l'Exalté. Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet « L'étape la plus difficile que nous devrons parcourir est la reconnaissance de la personne de Dieu. Nous devrons reconnaître Dieu. Si notre reconnaissance de la personne de Dieu comporte des lacunes et si cette reconnaissance est douteuse, eh bien notre foi ne sera point éclairée. Comment reconnaître Dieu? L'on va reconnaître Dieu grâce à la manifestation de son attribut Ar-Rahim, de sa Rahimia. C'est en établissant avec Dieu une relation vivante, une relation qui nous fera vivre l'expérience de sa Rahimia, qui nous fera vivre l'expérience de ses faveurs et de sa puissance. C'est ainsi que l'on pourra le reconnaître. Et l'on pourra en faire l'expérience quand l'adoration de Dieu, quand cette relation avec lui atteindra le seuil de l'extraordinaire. Le Messie premier alayhi salam explique que lorsqu'on fait l'expérience des attributs de la Rahimia de Dieu, lorsqu'on va faire l'expérience de ses faveurs et de sa puissance, c'est là que l'on pourra se libérer des passions de la chair. L'on est esclave de ses passions charnelles en raison de la faiblesse de la foi et en raison de manque de certitude. Si la foi n'est pas faible, si on a une certitude parfaite en Dieu, les passions de la chair n'auront pas lieu d'exister. Le Messie premier l'Islam explique que l'homme est épris de l'aisance de ce monde, de ses biens, de ses richesses. Or, il ne ressent pas pour les faveurs de l'au-delà la même passion. L'homme prétend aimer les faveurs de l'au-delà. Or, si cela était vrai, eh bien, pour acquérir ces faveurs de l'au-delà, il aurait entrepris les mêmes efforts qu'il accomplit pour récolter les choses de ce bas monde. Voire pour les faveurs de l'au-delà, il aurait accompli plus d'efforts. Il est donc évident qu'il ne croit pas réellement dans la puissance de Dieu, dans sa rahimia, dans ses promesses. Il est donc essentiel d'accomplir à cet égard une analyse de sa personne. Après cette explication, l'on comprend que la foi n'est pas quelque chose d'ordinaire. La foi revêt une très grande importance. La foi est un très grand objectif qui nous a été confié. Ces préparatifs ne concernent pas uniquement ces 30 jours du jeûne ou le mois du Ramadan. En soi, ces 30 jours de jeûne n'ont pas d'importance. Ces 30 jours de jeûne auront de l'importance quand tous nos efforts entrepris grâce à l'entraînement reçu au cours de ce mois reposeront sur nos œuvres accomplies pendant l'année. En deux phrases, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté notre feuille de route pour notre vie tout entière. Il ne suffit pas d'annoncer que l'on croit. Il ne suffit pas de croire qu'en raison de la déclaration du saint prophète Mohammed bissos à lui, tous nos péchés seront automatiquement pardonnés, rien qu'en affirmant que nous sommes en train de jeûner dans un état de foi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de jeûner tout en accomplissant notre analyse de conscience. Et cela sous-entend que l'on devra placer sa foi dans la balance qui juge la relation que l'on a avec Allah, l'exalté. Cette balance qui est là pour sous-peser le respect de ses commandements. À nous d'analyser si nous sommes en train de suivre ces injonctions ou pas. Le Messie premier Islam nous prodigue les conseils suivants quant à l'état de notre foi ainsi que son amélioration. Le Messie premier Islam explique il est deux catégories de foi en Dieu. La première catégorie de foi se limite à de simples déclarations verbales, des déclarations qui n'ont aucune incidence sur les œuvres. C'est une foi qui se limite à de simples paroles. Ce n'est pas une foi qui se traduit dans la pratique. La deuxième catégorie de foi en Allah est accompagnée de témoignages pratiques. Ainsi, tant que l'on ne tombe pas dans la deuxième catégorie, je ne puis affirmer, dit le Messie promet les salam, que l'on croit réellement en Dieu. Affirmer croire en Dieu pour ensuite commettre des transgressions est quelque chose qui dépasse mon entendement, dit le Messie promet les salam. La grande majorité des gens d'ici-bas tombent de la première catégorie. Je sais que ces gens prétendent croire en Dieu, dit le Messie promet les salam. Or, je constate qu'ils s'empêtrent par la même occasion dans les bassesses de ce bas monde et ils sont ternis par les flétrissures du péché. Croire en Dieu, comme si on le voyait de visu, doit faire naître en eux une distinction. Mais pourquoi est-elle absente, cette distinction? Personne ne volera les biens d'un simple balayeur de rue en sa présence. Pourquoi donc s'opposer à ce Dieu en qui l'on prétend croire, et pourquoi donc transgresser ses commandements avec tant d'hardiesse? Le Messie promet les salam ajoute: j'accepte le fait que la majorité des gens énoncent verbalement qu'ils croient en Dieu. D'aucuns le nomment Parmeshwar, d'aucuns le nomment God, d'autres lui donnent d'autres noms. Or, lorsqu'on éprouve leur foi d'un point de vue pratique, l'on constate qu'il ne s'agissait que de simples déclarations, des déclarations privées de tout témoignage pratique. Le Messie promet les salam ajoute: la nature de l'homme est ainsi faite qu'il évite les torts que peuvent lui causer une chose en laquelle il croit, et il tente de profiter de ses avantages. L'arsenic est un poison mortel, et quand on est conscient qu'une seule once d'arsenic suffit à donner la mort, eh bien, l'on n'aura même pas le courage d'en prendre. Car on sait que ce poison est mortel. Pourquoi donc la foi qu'on porte en Dieu n'engendre-t-il pas les résultats escomptés? Si la foi que l'on porte en Dieu est aussi forte que celle que l'on a en l'arsenic, eh bien, cette foi en Dieu aurait causé la mort de toutes les passions interdites. Or, il n'en est pas le cas. L'on devra affirmer qu'il ne s'agit que de simples déclarations. Cette foi n'a pas encore atteint le stade de la certitude. L'on est tout simplement en train de se leurrer en affirmant que l'on croit en Dieu. Celui qui dit croire en Dieu est en fait en train de se leurrer. Ainsi, la première obligation de l'homme est de rectifier la foi qu'il porte en Dieu. Il doit prouver dans la pratique qu'aucune action de sa part n'est contraire à la gloire d'Allah l'Exalté et de ses commandements. Voilà en somme l'introspection que doit accomplir le croyant. Une atmosphère particulière se crée au cours du Ramadan. L'on est enclin à rendre culte à Dieu et l'on est enclin à accomplir de bonnes œuvres en voyant les autres. Dans ce climat particulier, tout en rendant culte à Dieu, tout en accomplissant de bonnes œuvres, nous devrons nous prosterner devant Dieu et nous devrons demander pardon pour nos péchés antérieurs. Et les actes d'adoration et les changements que l'on aura apportés en soi au cours de ce Ramadan et le pardon que l'on aura mérité au cours de ce Ramadan doivent faire partie intégrante de la vie future. et nous devrons nous évertuer à maintenir ouvertes ces portes du paradis qui se sont ouvertes à nous au cours de ce Ramadan, et nous devons toujours profiter du pardon divin. Afin de profiter constamment des faveurs de ce monde, nous devrons en toute humilité nous prosterner devant Dieu, l'exalter. L'acquisition de la taqwa est le but qu'Allah a fixé pour le jeûne et nous devrons tenter d'atteindre la norme requise dans ce domaine. Je présente ici-bas certains points sur l'acquisition de la taqwa, sujet que le Messie promis l'Islam nous a expliqué de différentes manières. La foi de l'homme progressera lorsqu'il avancera dans le domaine de la taqwa. Tout comme il a été cité plus haut, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de jeûner en étant dans un état de foi et en accomplissant notre analyse de conscience. Cela signifie que l'on doit progresser dans la taqwa et que l'on va devoir conformer sa conduite au plaisir d'Allah l'exalté durant ses jours. Si on réussit à le faire, eh bien la taqwa fera partie intégrante de notre vie. Ainsi, l'on ne se contentera pas de rectifier sa conduite uniquement au cours du Ramadan. Ce sera là une faveur perpétuelle. En attirant notre attention à cet égard, le Messie premier l'Islam a déclaré « L'objectif du Coran et de l'Islam était de faire naître en nous la taqwa ». Or, nous ne voyons pas cela aujourd'hui, dit le Messie premier l'Islam. Les gens jeûnent et accomplissent la salah, or ils sont dénués de taqwa. Et c'est pour cette raison que leur salah et leur jeûne les transforment en pécheurs. Les actes de terrorisme que l'on commet au nom de l'Islam, ces innocents qu'on est en train de tuer, sont en raison du manque de taqwa. Tous les jours, il y a des incidents causés par des musulmans. Deux jours auparavant, l'on a tué avec une barbarie inouïe environ 100 personnes en Afghanistan. Le Ramadan sera-t-il de quelque avantage à ces personnes? Ces personnes vont-elles profiter des excellences de ce mois? Certainement non. Certainement non, parce qu'ils sont en train de transgresser les lois divines. Ils sont en train de s'éloigner des commandements de Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils sont loin de la taqwa. En accord au précepte du Saint-Coran, le Messie premier l'Islam explique que, sans taqwa, les salats ne serviront à rien et ces salats vont ouvrir la voie menant à l'enfer. Ainsi donc, le Ramadan ne sera d'aucune utilité à ceux qui sont dénués de taqwa, ceux qui sont en train de commettre des atrocités au nom d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jamais ces personnes ne profiteront du Ramadan. Au contraire, ils seront frappés du courroux divin. En entendant à propos de ces atrocités, de ces actes de barbarie, ou en faisant le constat, nous les Ahmadis devrons plus qu'auparavant implorer le pardon d'Allah, nous devrons le louer, car Allah nous a permis de nous distinguer de ces infâmes en acceptant le Messie premier l'Islam. Nous devrons examiner nos œuvres et nous devrons aussi nous soucier de la fermeté de notre foi. Nous devrons être reconnaissants envers Dieu en raison du fait que le Messie promis alayhi salam nous a montré la voie qui mène à lui. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: la racine de la foi est la taqwa et la pureté. La racine de la foi est la taqwa et la pureté, dit-il. La foi naît de ces deux entités et c'est la taqwa et la pureté qui arrosent la foi et qui répriment les passions charnelles. Ainsi, grâce à ces paroles du Messie promis à l'Islam, l'on comprend davantage que la foi ne peut exister sans taqwa. Celle-ci n'est pas uniquement la racine de la foi, la taqwa est aussi la protectrice et la nourricière de la foi. C'est en possédant la taqwa que l'on accomplira de bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui seront en accord au plaisir d'Allah l'Exalté, et cela va favoriser le progrès dans la foi. L'on en déduit aussi que les fruits de l'excellence du Ramadan seront acquis uniquement grâce à la taqwa. Quand la taqwa grandira, la foi sera renforcée, l'on sera enclin à accomplir son introspection. Ce faisant, les passions de la chair seront réprimées. Tout comme il a été dit plus haut, c'est en réprimant ces passions de la chair que l'on pourra se rapprocher de Dieu en accomplissant de bonnes œuvres. En expliquant la réalité de la taqwa véritable, le Messie promis alayhi salam explique: cette taqwa qui épure l'homme, qui purifie l'homme, cette taqwa pour laquelle les prophètes ont été suscités, eh bien cette taqwa a disparu de la terre. Le verset « Qad aflaha man zakkaha » ne s'applique pas à grand monde. La pureté est quelque chose de fort louable. Les anges viennent faire l'accolade à celui qui se purifie. Les gens y accordent peu de valeur. Sinon, ils auraient pu assouvir leur plaisir par les moyens licites. Si on accordait de la valeur à la taqwa, l'on aurait pu assouvir par les moyens licites et non par des moyens illicites ses plaisirs matériels. Le voleur commet ses larcins afin d'amasser des biens. Or, s'il faisait preuve de patience, Allah l'aurait enrichi par d'autres moyens. De même, l'adultère commet son péché. Or, s'il avait été patient, Allah aurait comblé ses désirs par d'autres moyens. Le Messie promis alayhi salam dit, dans un hadith, il est dit qu'aucun voleur ne volera quand il passe par l'état d'un croyant, et qu'aucun adultère ne commettra de fornication quand il sera en état de croyant. L'on commet pareille action lorsqu'on n'est plus dans un état de croyant. Le Messie promis alayhi salam explique que face à un tigre, la chèvre oubliera de brouter l'herbe devant elle. Les gens ont-elles une foi moindre que celle de la chèvre? Un journal a relaté les mêmes propos du Messie promis alayhi salam tenus dans une réunion. Et il est dit dans ce rapport que dans un hadith, il est dit qu'aucun voleur ne volera quand il passe par l'état d'un croyant. Ceci est tout à fait vrai. Face à un tigre, la chèvre oubliera de manger ce qui lui est permis, loin de vouloir aller brouter dans le champ d'autrui. De même, si l'on ressent la crainte d'Allah, l'exalté, il est impossible que l'on ose commettre des péchés. La racine ainsi que le but véritable est l'acquisition de la taqwa. Celui qui en possède peut tout acquérir. Sans la taqwa, il est impossible d'éviter les péchés grands et petits. Les lois des États d'ici-bas ne peuvent protéger du péché. Les préposés de l'État ne sont pas partout présents afin d'inspirer la peur. L'homme commet des transgressions lorsqu'il se croit seul. Sinon, il ne commettra jamais de péché. Et quand il se croit seul, il devient un athée. Quand il se croit seul, eh bien, il pense que Dieu n'est pas en train de le voir. Et cela signifie qu'il est devenu athée. Il ne croit pas que Dieu est en train de le voir, que Dieu est avec lui. S'il pensait le contraire, il n'aurait pas commis de péché. Le Messie premier salam explique que tout est tributaire de la taqwa. Tout dépend en fait de la taqwa. C'est ainsi que débute le Saint Coran. La supplication « Iyakana abudu wa iyakana stayin »« C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours » signifie la taqwa, que l'homme agit mais qu'il ne s'en attribue pas le mérite par la crainte de Dieu, et quand il implore Dieu pour son avenir, eh bien cela signifie la taqwa. L'homme énonce la prière « Iyakana abudu », c'est-à-dire « C'est toi seul que nous adorons ». L'homme accomplit des actes d'adoration, il met cela en pratique, mais il ne s'en accorde pas le mérite. L'homme ne s'attribue pas le mérite de cette action en dépit du fait qu'il accomplit cette action. Et il dit « Iyakana stayin ». Il déclare « Cet acte d'adoration que je le fais grâce à ton aide. C'est toi qui m'accordes cette grâce, sinon je n'aurais pas pu le faire ». Ainsi, il lui demande l'aide pour l'avenir, afin qu'Allah lui accorde la possibilité de lui rendre culte. Telle est la norme de la taqwa. Ensuite, le Messie promis alayhi salam ajoute, la prochaine sourate commence par cette phrase « Huda lil muttaqin ». La prière, le jeûne, la zakat et les autres actes seront acceptés à condition que l'on soit muttaqi. Tout cela sera accepté lorsqu'on sera muttaqi. S'il n'y a pas de taqwa, s'il n'y a pas cette piété, eh bien, ces actions ne seront pas dignes d'être acceptées. Le Messie premier salam ajoute, et dès lors, Dieu élimine toutes les sources du péché. Cela signifie que si la taqwa est présente, eh bien Allah l'exalté va supprimer toute chose qui incite au péché, toute chose qui mène au péché, qui invite à la transgression. Le Messie premier salam ajoute, si vous avez besoin d'une femme, eh bien il va vous accorder une femme. Si vous avez besoin d'un remède, il va vous l'accorder. Il vous accordera tout ce dont vous avez besoin. Et il va vous accorder des provisions de là où vous ne l'attendez pas. Dans un autre verset du Saint-Coran, il est dit « Inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu » Ce verset fait également référence aux muttaqi, c'est-à-dire ceux qui disent qu'Allah est leur Seigneur et qui font preuve de constance dans cette foi qu'Allah est leur Seigneur. Ils savent que c'est Dieu qui va pourvoir à leurs besoins, c'est lui leur nourricier. Eh bien, des anges viennent visiter ces personnes en disant « N'ayez aucune crainte et ne vous souciez pas des manquements qui ont pu ternir vos actions passées, car à présent, vous êtes des muttaqi, vous avez adopté la taqwa. » Le Messie premier salam déclare que « Thumma staqamu » s'applique aux muttaqi. Ils passent par des tourments, ils passent par des épreuves, par des tempêtes, mais ils sont fidèles à la promesse qu'ils ont faite à Dieu. Ils ont promis à Dieu qu'ils seront constants. Ils ne seront pas comme ceux qui font preuve de piété uniquement pendant le Ramadan, en raison du fait qu'au cours de ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. La persévérance est la condition sine qua non. Le Messie premier d'Islam ajoute, lorsque ces personnes ont agi de la sorte et ont fait preuve de sincérité et de fidélité, eh bien, ils vont recevoir cette réponse « Tatanazzalu alayhimul malaika » c'est-à-dire les anges vont descendre sur eux et vont leur dire « N'ayez point aucune crainte, ne soyez point triste, Allah est votre gardien. Wabshiru bil jannati allati kuntum turadun » Recevez cette bonne nouvelle du paradis d'ici-bas et du paradis de l'au-delà. Le paradis d'ici-bas signifie le paradis de cette vie. Cela ne s'applique pas. Au paradis de l'au-delà, Allah annonce la bonne nouvelle aux gens qui sont pieux d'un paradis ici-bas sur terre, tout comme il est dit dans le Saint-Coran « Waliman khafa maqama rabbihi jannatan ». Ensuite, il dit « Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhira ». Dans la vie de ce monde et dans l'au-delà, nous sommes vos amis et vos protecteurs, diront ces anges. Ainsi, Allah pardonne les péchés de ceux qui font régulièrement des actions pieuses. Il leur accorde de plus les biens de ce monde. Allah leur accorde des faveurs d'ici-bas, et il est leur ami et leur protecteur dans l'au-delà. Combien chanceux sont ceux d'entre nous qui, au cours du Ramadan, vivent conformément aux recommandations d'Allah et qui font preuve de constance dans ce domaine et qui tentent toujours de le faire. Le Messie premier al-Islam explique davantage le sujet de la taqwa et de la persévérance. Il déclare : le véritable musulman doit faire preuve de patience, surtout au tout début. Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ont dû faire face à des périodes difficiles pendant lesquelles ils n'avaient rien d'autre à manger que des feuilles. Des fois, ils n'avaient pas un morceau de pain. Une personne ne peut profiter à autrui tant qu'Allah n'accorde pas de bien. Lorsqu'une personne adopte la taqwa, Dieu lui ouvre des voies. « Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan » Le Messie premier al-Islam dit « Ayez une foi ferme en Dieu ». Ce verset comporte deux parties. Il est dit que la personne qui fera preuve de taqwa, eh bien Allah l'exalté lui ouvrira une voie pour elle, afin qu'elle obtienne sa provision de là où elle ne pouvait jamais l'escompter. Allah va pourvoir à ses besoins de là où il ne s'y attend pas. Le Messie promet l'Islam déclare « Ayez une foi sincère en Dieu et vous pourrez tout obtenir de lui. » Mais il faut être persévérant. Les prophètes ont atteint leur degré d'excellence à travers la persévérance. Le Messie promet les salams ajoute, on ne peut rien obtenir, rien en accomplissant la sola et les jeûnes au cours du Ramadan. En revanche, si l'on est constant dans ses œuvres, on va tout obtenir. Allah, l'exalté, souhaite que nous soyons muttaqi, afin que les portes de ses grâces infinies s'ouvrent à nous. Il ouvre particulièrement les portes de sa grâce au cours du mois du Ramadan pour ceux qui possèdent la taqwa. Afin de devenir muttaqi, il ne suffit pas uniquement d'abandonner les péchés, il faudra aussi accomplir de bonnes œuvres. En détaillant ce point, le Messie premier al-Islam déclare que pour être considéré comme muttaqi, après avoir évité les grands péchés, à l'instar de l'adultère, du vol, de l'escroquerie, de l'ostentation, le mépris, l'avarice, après avoir évité ces grands péchés, l'on doit exceller en matière de moralité. Il faut se préserver de l'immoralité et il faudra développer les bonnes qualités morales. C'est là une condition importante. Il faut traiter autrui avec gentillesse et aménité. Il faut faire montre d'une véritable loyauté et sincérité envers Allah l'exalté. Essayez d'atteindre l'excellence dans vos services. Il faut rendre des services et accomplir des œuvres louables, des œuvres extraordinaires. C'est ainsi que l'on va gravir les échelons de la taqwa. Il faut servir autrui avec abnégation. Vous devez respecter les droits d'Allah ainsi que les droits d'autrui. Et vous devrez accomplir ces œuvres afin qu'elles soient louables. Le Messie promet l'Islam explique « L'homme méritera le plaisir divin quand il accomplira pareille œuvre et c'est ainsi qu'il méritera le titre de Muttaqi. » Seuls ceux qui possèdent tous ces attributs seront les véritables Muttaqi. Si quelqu'un n'en possède qu'un seul, il ne méritera pas ce titre de Muttaqi. C'est à propos de ces personnes que ce verset s'applique « La khawfun alayhim wa lahum yahzanun », c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune crainte, ni ne seront-ils affligés. Que leur faut-il de plus ? Allah devient leur protecteur, tout comme il dit « Wa huwa yatawalla as-salihin ». Selon un hadith, dit le Messie promet l'Islam, il est dit qu'Allah devient les mains par lesquelles ils attrapent, il devient les yeux par lesquels ils voient, il devient les oreilles par lesquelles ils entendent, il devient les pieds avec lesquels ils marchent. Selon un autre hadith, il est dit que celui qui devient l'ennemi de mon ami, eh bien, je lui annonce d'être prêt à m'affronter. Le Messie promet l'Islam ajoute, il est dit que, telle une tigresse qui protège ses petits, Allah bondit sur ceux qui osent s'attaquer à ses amis, à ses bien-aimés. Le Messie promet l'Islam explique ensuite l'importance de la taqwa ainsi que le but pour lequel il a été suscité. Il explique que les raisons pour lesquelles j'ai été envoyé étaient que le champ de la taqwa était tout à fait vide. La taqwa est essentielle. Il ne faut pas prendre l'épée. Ceci est interdit. Si vous agissez avec taqwa, alors le monde entier sera avec vous. Ainsi, établissez la taqwa. Ceux qui consomment l'alcool ou ceux pour qui cette boisson est une partie intégrante de leur religion, eh bien, ceux-là ne pourront jamais établir de lien avec la taqwa. Ces gens mènent une guerre contre la piété. Si Allah accorde à notre Jama des personnes chanceuses et qu'il leur offre la possibilité de mener une guerre contre le mal et de se purifier et de progresser dans la taqwa, ce sera là le succès véritable et il n'y aura rien de plus efficace que cela. Quand on analyse les religions du monde, on constate que la taqwa a disparu et l'éclat du monde a été élevé au rang de divinité. Le véritable Dieu a été délaissé et déshonoré, mais maintenant Dieu souhaite qu'il soit reconnu et que le monde soit au courant de son existence. Ceux qui élèvent le monde au rang de divinité ne peuvent avoir confiance en Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam de conseil. Ceux qui souhaitent être sauvés du châtiment divin, rien comme prétend les gens, se trompent. Leurs armes est en train de les tromper. Si le patient ne respecte pas la prescription du médecin, il sera futile d'espérer quelque guérison. Ainsi, tentez de vous purifier et tentez d'être pieux au point que vous soyez protégé du châtiment de Dieu. Dieu est miséricordieux envers ceux qui se repentent, car si tel n'était pas le cas, eh bien, le monde sera dans les ténèbres. Quand une personne devient muttaqi, Dieu la distingue de son prochain. Le Messie promet l'Islam déclare, notre Jamaat doit se soucier. Si une personne fait preuve de taqwa autant que Dieu le souhaite, eh bien cette personne sera sauvée par Dieu. Dieu a fondé ce mouvement dans le but de promouvoir la taqwa car le champ de la taqwa est complètement vide. Ainsi donc, nous avons une autre occasion de profiter d'un ramadan au cours de notre vie. Et Dieu a déclaré que le but du ramadan, c'est pour acquérir la taqwa. D'ailleurs, le fait que le Messie promet l'Islam a déclaré que Dieu a mis en place cette communauté afin d'établir la taqwa, cela accroît nos responsabilités. Nous devrons à cet égard analyser notre état régulièrement et nous devrons tenter de provoquer en nous-mêmes cette révolution et d'apporter en nous cette taqwa afin qu'elle atteigne la norme requise par Dieu durant ces jours de Ramadan qui sont empreints de faveur. Mais cela ne doit pas se limiter au Ramadan. Il faut que nous fassions que ces actions fassent partie intégrante de notre vie, qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Khaja Ahmad Hussein Saheb, Darvish de Qadian, Il était le fils de Mokarram Mohammad Hussein Saheb. Il est décédé le 31 mai 2017 à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né en 1926 à Sikhwa, dans un village voisin de Qadian. Son grand-père maternel, Mia Imabdin Saheb, et ses deux frères, Mia Nizamdin et Mia Khairin, étaient tous trois des compagnons du Messie Promis d'Islam. Raja Ahmad Hussein Saheb, le défunt, a passé son enfance dans une extrême pauvreté. À l'âge de 9 ans, il est venu vivre à Qadian avec sa famille. Et en raison de la situation difficile, il n'a pas pu poursuivre ses études. Mais il était fort passionné d'études. Il a appris par ses propres efforts à la lecture du Saint-Coran. Ensuite, il participait dans les Majlis Nefar du deuxième calife akkadien. Et c'est ainsi qu'il a accru sa connaissance. Lors de la partition de l'Inde, le deuxième calife lui a conseillé de rester akkadien. Il est resté là-bas après avoir concerté avec ses parents. C'est ainsi qu'il est devenu un dervish. La Jamaat a connu une situation difficile où l'Anjuman ne pouvait pas payer les dervish. La Jamaat a donc demandé aux dervish qui connaissaient un métier d'aller chercher un travail. Ainsi, le défunt connaissait la couture et de 1953 à 1962, il a séjourné dans le sud de l'Inde. C'est ainsi qu'il pourvoyait lui-même à ses besoins. Ensuite, il est retourné à Qadian et il a eu l'occasion de servir dans différents bureaux de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Il a pris sa retraite en 1989, mais il n'a cessé de servir à la Jamaat. Et il a ouvert son magasin de couture juste à côté du portail de la mosquée Mubarak à Qadian. Il était régulier dans ses prières et dans la prière Tahajjud. C'était quelqu'un de très circonspect. Il était doté de haute qualité morale. En 2005, il a eu l'occasion de participer à la convention annuelle du Royaume-Uni. Il a eu la chance de voir quatre califes de ses yeux, depuis le deuxième calife jusqu'au cinquième calife. Il avait l'habitude de tout faire lui-même. Il conseillait ses enfants d'être toujours attachés au califat. Il s'était marié une première fois en 1946 dans sa famille. La Jamaat avait ordonné que les femmes soient envoyées au Pakistan. Il a envoyé sa femme au Pakistan. Comme sa mère était une non-Ahmadi, elle n'avait pas un bon comportement envers lui et elle avait coupé les ponts avec lui. Et en 1953, le défunt s'est marié une deuxième fois à Hamida Begum Sahiba, qui était de Hyderabad Deccan. Avec cette dame, il a eu quatre filles et un fils. Son fils Raja Bashir Ahmad Saheb est le directeur de la Talim Islam High School de Qadian. L'une de ses filles, Salima Kamar Saheba, est l'épouse de Nasir Kamar Saheb, additional Wakilul Shahad, Londres. Un de ses gendres, Hafiz Bhatti Saheb, est en train de servir à Qadian. L'épouse de Nasir Kamar Saheb, la fille du défunt, écrit que le défunt était doté de beaucoup de qualités. Il priait beaucoup, c'était un homme très simple, sociable, il était un grand amoureux du califat. C'était quelqu'un de très poli. Sa fille relate que lorsque je me suis marié, je suis parti à Rabwa. J'étais triste, mais mon père m'a dit que je ne dois pas être triste, j'ai la chance de prier derrière le calife et d'écouter le sermon du calife directement. Le défunt était toujours attaché à la mosquée. Quelques années de cela, il a eu un accident vasculaire cérébral et il ne pouvait plus se rendre à la mosquée. Il priait et demandait aux autres de prier afin qu'Allah lui accorde la force nécessaire à ses jambes afin qu'il puisse partir à la mosquée. Il possédait d'innombrables autres qualités. Qu'Allah exalte son statut au paradis. Malgré sa pauvreté, elle a poussé ses filles à faire des études. Et c'est ainsi que ces dernières ont pu compléter leur maîtrise et son fils aussi a complété sa licence ainsi que sa maîtrise. Il a fait sa licence et sa maîtrise, et il est le directeur de la Talim Uslam High School. Qu'Allah fasse que sa descendance soit toujours attachée au califat. Qu'Allah fasse que sa descendance n'oublie pas les sacrifices auxquels a consenti le défunt. Et qu'Allah fasse que sa descendance soit toujours attachée à la Jamaat.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.